Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous, le rendez-vous que nous dédions chaque semaine à l'actualité de Toulouse Métropole. La saison d'émissions qui s'ouvre va être un peu particulière, puisque, au cas où vous ne seriez pas encore au courant, nous sommes entrés depuis le 1er septembre dans la période dite de réserve électorale, ce qui implique que jusqu'à la tenue des élections municipales de mars prochain, nous ne pouvons plus inviter d'élus pour présenter des projets métropolitains en cours ou à venir. En revanche, nous pouvons parler des services et établissements de Toulouse Métropole, les présenter et expliquer à nos auditeurs ce que sont leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement. Pour commencer cette série, j'ai choisi de mieux vous faire connaître ce qui est sans doute l'institution culturelle la plus célèbre de notre territoire, l'établissement public du Capitole qui réunit l'Orchestre national du Capitole et l'Opéra national du Capitole. Je pense que la plupart des citoyens métropolitains en ont entendu parler, mais ils sont sans doute assez peu à en connaître l'histoire et l'organisation. Je vous propose de nous y plonger au cours d'une émission en deux volets. Aujourd'hui, c'est à l'Orchestre national du Capitole que nous allons nous intéresser. Et pour partir à la découverte de l'établissement public du Capitole, j'accueille sa directrice générale, Claire Rosereau de Melun, que je salue et remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation.
Merci Eric.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais rappeler que vous avez été nommée administratrice du Théâtre et de l'Orchestre National du Capitole en 2019, avant de devenir directrice générale de l'établissement public du Capitole en 2023. Nous allons expliquer les raisons et les conséquences de cette évolution dans quelques instants. Avant cela, j'imagine que certains de nos auditeurs se demandent comment on arrive à un poste tel que celui que vous occupez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot rapide sur les études que vous avez faites et sur ce qu'a été votre parcours professionnel avant de rejoindre Toulouse et le théâtre et l'Orchestre national du Capitole il y a 6 ans.
Alors effectivement, bon, au départ je suis musicienne, je m'ai dédiée à un parcours de musicienne et puis les voix ont été différentes parce que j'ai compris rapidement que c'était pas ce métier dans lequel j'allais m'épanouir et je suis partie faire tout simplement une formation universitaire en administration gestion des entreprises culturelles que j'ai spécialisée en master en administration de la musique à Paris 4. Et bon, j'ai eu l'occasion évidemment dans le cadre de mes études de parcourir de nombreux festivals, de nombreuses structures et j'ai posé sur la fin de mes études mes valises à l'Opéra de Paris d'abord, puis aux percussions claviers de Lyon dans un grand écart, hein, ça peut surprendre. La plus grosse, et puis les percussions claviers de Lyon, c'est un ensemble lyonnais qui, à l'époque, créait son deuxième poste de permanent, mais qui m'a permis de faire mes premières armes et au sein de laquelle on m'a fait confiance. Je suis partie en compagnie ensuite, ensemble Justiniana, compagnie lyrique, développement en milieu rural de l'art lyrique. Donc j'avais déjà ce projet chevillé au corps d'ouvrir l'opéra à tous. Et puis une dizaine d'années à l'Opéra de Rouen, voilà, sur des fonctions de direction de la coordination artistique, donc à la croisée entre la programmation et l'administration de la programmation, pour arriver, vous l'avez dit, en 2019, sur l'administration générale de l'Opéra et de l'orchestre, à l'époque, en régie directe de la métropole.
Voilà pour le beau parcours qui vous a mené donc à ce poste aujourd'hui de directrice générale de l'établissement public du Capitole, donc dans lequel sont réunis depuis le 1er janvier 2023 l'Orchestre national du Capitole et l'Opéra national du Capitole. Je crois que pour être précis, c'est établissement public administratif qu'il faut dire.
Alors le nom de l'entité juridique, c'est établissement public du Capitole. Après son statut, c'est effectivement une régie personnalisée de type établissement public administratif. On est
Ceux qui s'intéressent à la gestion, à des choses qui peuvent paraître assez complexes pour le commun des mortels. Auparavant, c'était des régies directes, en fait, hein, aussi bien l'orchestre que l'opéra.
Voilà, nous avions deux directions de Toulouse Métropole, même deux services qui étaient réunis dans une seule direction qui m'a été confiée, qui était donc au sein de la métropole. Ce qui veut dire que très concrètement, une décision qui concernait l'orchestre passait en conseil de la métropole, pouvait monter en arbitrage jusqu'au maire président. Voilà, un fonctionnement très imbriqué avec les services de la métropole.
Pourquoi cette évolution a été nécessaire vers un établissement public qui réunit les deux entités et qu'est-ce que ça implique concrètement en termes de gestion et d'administration ?
Alors c'est un virage qui effectivement est important dans l'histoire de notre maison, transparent pour le public. En tout cas, si on a réussi le virage, il est resté transparent pour le public. En revanche, c'était quelque chose qui était nécessaire. La plupart des opéras et des orchestres ont, on va dire, une gestion qui est sortie de la régie directe. C'est vrai que le spectacle vivant n'est pas totalement compatible avec le fonctionnement d'une régie directe. Ce qui a accéléré les choses chez nous, et on y reviendra plus tard, hein, c'est le label Opéra National qui, parmi ses critères, demande une, ce qu'ils appellent sur le papier une indépendance de gouvernance. Ça reste relatif, mais en tout cas une entité juridique différente de ses partenaires financiers. Donc ça a été on a eu le label avant, l'État a fait le pari de la confiance, mais voilà, il y avait cet engagement et c'était quelque chose qui était positif pour la structure, donc dans lequel évidemment, nos élus ont adhéré, ce qui est fondamental, évidemment, pour ce type d'évolution.
Alors, la grande évolution, c'est que maintenant, il y a un conseil d'administration en propre, hein, sous tutelle tout de même de Toulouse Métropole, bien sûr, et il est composé bien majoritairement d'élus de la métropole.
Absolument. Donc, on a un conseil d'administration qui est composé de 9 personnes, dont 7 sont des élus de la métropole de Toulouse, présidée par Francis Grasse, adjoint au maire en charge de la culture, et complété d'un représentant de l'État qui, en l'occurrence, nous avons l'honneur d'avoir la présence directe et personnelle du préfet, de monsieur le préfet, donc Pierre-André Durand actuellement, mais c'était déjà le cas auparavant. C'est un geste fort, voilà, que le préfet siège personnellement. Et puis une personnalité qualifiée, voilà, ouvrir, c'est possible dans les régies personnalisées. Et là, en l'occurrence, on a la joie d'avoir le directeur général de la Philharmonie de Paris, Olivier Mantelli.
Oui, alors Pierre-André Durand, préfet de région, que je croise souvent à la Lougrin, c'est un vrai mélomane passionné qui joue d'ailleurs lui-même d'un instrument.
Du trombone.
Du trombone, voilà. Donc nous avons là aussi une personne qualifiée d'une certaine manière. On a expliqué ce que était ce statut, ce nouveau statut de la Maison Capitole aujourd'hui. Je voudrais qu'on se focalise maintenant sur l'Orchestre National du Capitole. On s'intéressera à l'opéra dans le second volet de cette émission. Et concernant l'orchestre, je propose que nous fassions un peu d'histoire. Quand a-t-il créé et en quelle année est-il devenu Orchestre National du Capitole ? Alors la création, je crois que ça, c'est flou.
Alors voilà, ces histoires de maisons font que parfois c'est un peu flou, les lignes de partage. Bon, on sait qu'il y avait de la musique à Toulouse depuis le 17e, 18e siècle, mais effectivement, on date la nécessité d'un orchestre dit permanent, même si à l'époque, ce n'était pas de la même manière, dans le cours du 19e siècle. Et puis, le virage qu'on connaît tous, c'est celui de l'émancipation de l'orchestre qui était l'orchestre de la Fosse, hein, pour le Théâtre du Capitole.
Oui, parce qu'il a été créé au départ, c'était pour les opéras.
Exactement, pour les opéras
c'était
et les ballets.
Un orchestre de la ville, c'était pour avoir un orchestre pour accompagner les opéras.
Exactement, et là on est dans l'histoire de presque tous les orchestres de France en réalité, et c'est sous l'impulsion des plans Landowski, hein, à l'époque de notre ministre
Marcel Landowski.
Malraux, exactement, que les orchestres se sont entre guillemets émancipés, je ne sais pas s'ils étaient véritablement coincés, mais en tout cas on a choisi de leur donner une identité en propre, et c'est ce qui se passe avec nous, avec cette consécration en 81 de l'Orchestre National, mais tout le travail de Michel Plasson à partir de la fin des années 60 pour œuvrer dans ce sens-là.
Oui, Michel Plasson qui est arrivé à la tête de l'orchestre en 1968, c'est grâce à lui qu'on a la Lougrin d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'est un petit
Exactement.
Peu avant le milieu des années 70, vers 74, que ce bâtiment qui avant était plutôt dédié, je crois, des combats de catch,
palais des sports,
voilà, va devenir la salle attitrée de l'orchestre du Capitole, futur orchestre national du Capitole à partir de 81. Vous l'avez rappelé, alors ça reste encore peut-être aujourd'hui la grande figure emblématique de l'orchestre, Michel Plasson.
Oui, c'est quelqu'un qui est très marquant, et puis vous avez parlé de la Halle aux Grains, c'est aussi un bâtiment très marquant. Alors pourquoi? Déjà par la longévité de sa présence chez nous, hein, 35 ans. On a parlé de son arrivée en 1968, il repart en 2003. Donc là, on a quelqu'un qui marque, et on a quelqu'un qui marque aussi, surtout par sa discographie. Enfin, je dis surtout, en tout cas à l'extérieur, par sa discographie. Aujourd'hui, vous n'avez pas un jour sur une radio... Radio Classique France Musique, où il n'y a pas un enregistrement de l'Orchestre du Capitole avec Michel Plasson, et vous entendez enregistré par Michel Plasson à la Halle aux Grains de Toulouse, ce qui a donné en fait un rayonnement énorme.
C'est des dizaines d'enregistrements.
C'est des centaines d'enregistrements.
Des centaines, je crois.
Ouais.
Il suffit d'aller sur YouTube, il y a une chaîne de Michel Plasson sur YouTube, et vous verrez tous les enregistrements qu'il a fait avec le Capitole, notamment sous le label EMI.
Exactement, principalement. Ouais.
Et ce qui est formidable, enfin je conseille vraiment à ceux qui nous écoutent, c'est tous les enregistrements de musique française. C'est une référence pour tous les mélomanes, pour tous les spécialistes.
Et j'allais effectivement le préciser, c'est-à-dire qu'il va donner une identité très française à l'orchestre. Donc il y a cette dimension d'un orchestre qui est un orchestre à part entière avec sa saison symphonique, et il y a cette dimension de musique française, de défense qu'il avait au fond des tripes, qu'il a toujours d'ailleurs au fond des tripes. Et c'est magnifique de voir que 50 ans, 60 ans plus tard, ce sont des versions qui font toujours référence et qui n'ont pas pris une ride.
Michel Plasson, que l'on salue, qui aura 92 ans bientôt, là, début octobre. Alors, l'autre figure marquante des dernières décennies, évidemment, c'est Tougan Sokiev. On ne peut pas ne pas en parler.
Exactement. Tougan Sokiev, qui commence à prendre sa place à l'orchestre dès 2005. Il est nommé directeur musical en 2008, jusqu'en 2022. Donc, là aussi, une longévité. Alors, même si, quand on a eu 35 ans d'un directeur musical, ça peut paraître plus court, mais en réalité, dans le monde qui s'accélère, les directions musicales sont plus courtes. Et en l'occurrence, avoir pendant presque 18 ans le même directeur musical, en l'occurrence avec Tougan Sokiev, c'est aussi quelque chose qui est rarissime.
Et le public est resté très attaché encore aujourd'hui.
Le public est très attaché, il nous a emmenés sur un répertoire complètement différent. Et il y a quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'il a construit l'orchestre dans une nouvelle étape, comme l'orchestre l'a construit, lui, dans une nouvelle étape de sa carrière. Donc c'est quelque chose qui a vraiment mûri ensemble, qui a marqué beaucoup les équipes et qui a marqué le public, vous l'avez dit. C'est une figure vraiment très importante de l'histoire de la maison.
Tougan Sokiev, qu'on revoit encore tous les ans et qu'on reverra d'ailleurs cette saison en tant que chef invité. Chaque fois qu'il vient, la Logan est pleine, il y a des acclamations qui durent des minutes et des minutes avant le concert et encore plus après, bien sûr. Et puis, il y a une page qui vient de s'ouvrir là, tout récemment avec Tarmo Peltokoski, tout jeune chef finlandais, extrêmement doué et qui tout de suite est devenu aussi un nouveau chouchou pour le public toulousain. Et pour les musiciens, et parce que ce sont eux qui l'ont choisi.
Absolument, ça se passe comme ça, un choix de direction musicale, ça se coopte. Alors évidemment, in fine, c'est bien notre tutelle, le maire président, qui a la décision, mais c'est l'histoire d'une rencontre avant toute chose, et dans l'alchimie de la rencontre entre l'orchestre et le chef, il y a aussi l'alchimie de la rencontre avec le public. Alors c'est quelque chose ici qui est incroyable, comme le public adopte ses directeurs musicaux. Alors c'est vrai que la personnalité de Tarmo a quelque chose de magnétique, voilà, il y a un charisme incroyable, dans un corps, je dirais pas d'enfant, parce que c'est un adulte.
D'adolescent.
Voilà. Donc il y a quelque chose qui prend, mais au-delà de ça, on a un public qui a quelque chose de particulier. Donc voilà, cette nouvelle aventure qui commence, cette rencontre, qui avait été savamment organisée, puisqu'on pensait qu'il y avait tous les ingrédients pour que ça fonctionne, mais il y a d'autres personnes avec lesquelles il y avait tous les ingrédients pour que ça fonctionne, et ça n'a pas forcément abouti. En l'occurrence, c'était lui. C'était le bon moment, c'était au bon endroit, Saint-Jean-de-Luz, un festival Ravel, il y a 3 ans. Et maintenant, ça y est, voilà, il est directeur musical.
C'est une histoire d'amour entre les musiciens et Tarmo Peltokoski, et entre Tarmo Peltokoski et le public toulousain. Et il y a tous les ingrédients, vous le disiez, pour que ça dure. Alors, c'est aussi une nouvelle page discographique qui va s'ouvrir avec lui, et notamment avec le très prestigieux label Deutsche Grammophon.
Oui, absolument. Tarmo est un artiste Deutsche Grammophon, donc nous aurons la joie, la fierté de pouvoir enregistrer avec Deutsche Grammophon son bébé, qui sont les symphonies de Vaughan Williams.
Ouais, voilà, symphonies de Vaughan Williams, effectivement.
Exactement.
Il est complètement passionné par ce compositeur.
Il est passionné
britannique.
Par cette musique. Et de façon générale, je trouve que c'est quelque chose qui est frappant et qui a marqué dans la rencontre avec le public, c'est que Tarmo est capable de nous emmener dans des répertoires qu'on ne connaît pas forcément, auxquels le public n'adhérerait pas forcément immédiatement, mais il a une capacité à les défendre musicalement et à embarquer qui est extraordinaire. Donc je ne doute pas que toutes les premières rencontres qu'on a eues déjà autour de Vaughan Williams ont été incroyables. Et l'émotion dans la salle, et pour tous ceux qui ont déjà eu cette chance d'un concert avec Tarmo, elle est palpable et donc on aura la joie de fixer ça au disque.
Alors, après avoir parlé des chefs qui ont marqué l'histoire de l'Orchestre National du Capitole, on parle un petit peu de chiffres. Quel est l'effectif aujourd'hui de l'Orchestre National du Capitole? On va parler des artistes, bien sûr, mais il y a aussi les gens qui travaillent autour.
Oui. Alors, l'orchestre, aujourd'hui, sont d'abord ses musiciens. Les musiciens qui sont en effectif théorique autour de 125 musiciens, après les jeux des arrivées et des sorties. Donc, on est plutôt autour de 117 actuellement. Et évidemment, un orchestre ne fonctionne pas sans son équipe rapprochée. Petite digression peut-être pour dire quand même qu'au sein de l'établissement public du Capitole, il y a une direction dédiée à l'orchestre, une direction dédiée à l'opéra, et les autres directions sont entièrement mutualisées. Donc les services vraiment dédiés à l'orchestre, il y a évidemment le bras droit, enfin je dirais même le tandem du directeur musical qui est Jean-Baptiste Fra, délégué général. Le délégué général, quel est son rôle? C'est construire avec le directeur musical au quotidien la programmation, mais c'est aussi faire fonctionner, manager l'orchestre au quotidien, puisque un orchestre ne se manage pas seulement sur le plan artistique, c'est aussi beaucoup de relations humaines, d'organisation. Et il est secondé dans ce travail par ce qu'on appelle la régie générale. Voilà, la régie générale qui est dans un travail très opérationnel pour l'orchestre, avec un pôle plus logistique planning et un pôle plus technique. Et puis, la cellule production qui, elle, est plutôt dédiée à tout ce qui va être accueil des chefs, des solistes, des ensembles invités, enfin des chœurs notamment qui peuvent être invités. Et puis, une petite cellule administration dédiée, en l'occurrence qui est, elle, en service mutualisé, mais qui est quand même affectée à l'orchestre pour la facilité du travail au quotidien.
Alors, si on parle des fonctions mutualisées entre l'opéra et l'orchestre, ça va être quoi? Ça va être l'administration, quelqu'un comme vous, par exemple?
Oui, effectivement. Il y a toute la partie, ce qu'on appelle la direction des ressources, hein, qui est pilotée par une directrice ressources qui est Isabelle Arnon-Roy, dans laquelle on retrouve les fonctions classiques d'une entreprise, hein, RH, finance, juridique, etc. On a toute la direction marketing et développement des publics, où là, eh ben, on va travailler toute la chaîne de relations au public, depuis la découverte, l'ouverture avec les enfants, avec les publics qui n'ont pas l'habitude de venir, jusqu'à l'acte d'achat du billet. Hein. Je ne déroule pas toute la chaîne, mais il y a la billetterie, il y a l'accueil public en salle, il y a toute la stratégie de communication, les relations presse, etc. Donc un gros pôle dédié à cette partie-là. Et une partie de notre direction technique. Alors, même si l'essentiel de la direction technique est dédié à l'opéra, il y a une partie qui est dédiée à l'orchestre, en l'occurrence, toute la direction technique de la Halograin, puisqu'il y a ce bâtiment, voilà, qu'il faut faire fonctionner. Et donc, on a cette équipe qui est placée sous la direction de David Fargeau.
Qui s'occupe des lumières aussi. Enfin,
bon, du son, bref. Avec une qualité, vous me tendez la perche, j'en profite, avec des qualités reconnues, puisque Radio Classique, par exemple, quand ils n'enregistrent pas directement, font confiance à la qualité
à
des enregistrements
de
notre maison, qui est reconnue et personne n'entend la différence sur les ondes.
Peut-être une chose, le statut des musiciens de l'orchestre, ils ont des contrats, Toulouse Métropole?
Alors, établissement public du Capitole.
Voilà, maintenant, ils ont des contrats, voilà. Établissement public du Capitole.
Tout le monde a des contrats, établissement public du Capitole, oui. Ce sont des contrats permanents, c'est vrai, c'est important de le préciser. Sur l'ensemble de la maison Capitole, on est 400 permanents. Les musiciens font partie des artistes permanents de la maison. Permanent, ça veut dire qu'ils sont... Alors, salariés, c'est le vocabulaire du privé. Hein.
Oui,
nous,
mais
on
c'est
dit
ça.
Agent public pour le...
Oui,
pour
agent public pour la fonction publique.
Pour la fonction publique. Mais leur travail, c'est à temps plein d'être artiste au sein de notre maison. Et on complète nos équipes, évidemment, avec des intermittents.
Puisqu'on parle un peu maintenant, on commence à parler d'argent, est-ce qu'on peut communiquer sur le montant du budget de l'Orchestre National du Capitole et sur la part respective de ses financeurs?
Oui, alors on va parler en grande masse. Le budget total de l'établissement, c'est 40 millions d'euros.
Opéra et orchestre,
absolument. Et services mutualisés. Et on a 38%, donc en gros, c'est 15 millions d'euros qui représentent la
de
partie orchestre. Là aussi, sur l'ensemble de la maison, mais les équilibres se retrouvent sur la partie orchestre. L'essentiel de nos ressources viennent des financements publics. 80% de nos ressources sont issues des subventions, donc subventions de la métropole en premier, de l'État et pour l'orchestre de la région également, des financements européens de façon un peu plus marginale. Et les 20% de recettes propres, alors c'est évidemment la billetterie principalement, un petit peu de mécénat et toutes les recettes qui peuvent être liées aux tournées, aux coproductions, aux locations, etc.
Alors, le mécénat, c'est à travers l'association AIDA. Hein,
notamment, oui.
Et c'est une part qui va quand même en se développant, même si elle reste minime, évidemment, par rapport à la masse, comme vous le disiez. Mais c'est quelque chose qui se développe tout de même, sur lequel vous travaillez beaucoup.
Et alors, c'est absolument fondamental. Donc oui, on travaille en tandem avec l'association AIDA, qui est notre club de mécènes, et avec une cellule interne qui s'occupe notamment du mécénat des particuliers, voilà, les individuels, et en croisée, le mécénat au projet est travaillé à la fois par AIDA et la cellule interne. On a l'impression qu'effectivement, ce sont des montants qui ne sont pas forcément très significatifs à l'échelle du budget global de la maison. Mais en fait, on s'aperçoit, et je le dis tout le temps, que ça peut être 70-80% d'un projet particulier.
Oui.
Et donc, potentiellement, ça va nous permettre de déclencher des choses qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre si on n'avait
pas cette manne.
Exactement.
Billetterie, on va parler de la fréquentation de l'Halograin. Alors, qu'est-ce que ça donne pour l'année 2024, mais même en termes d'évolution depuis quelques années?
Alors, ça cartonne. Ceux qui vont à l'Halograin, j'en profite pour remercier notre public, toujours plus fidèle, toujours plus nombreux, généreux. Alors, on clôture 24-25 à un peu plus de 80 000 spectateurs, enfin, total de places vendues. C'est un taux de remplissage de 94%.
C'est énorme. Hein.
Bon, sachant qu'effectivement, le 100% n'est pas atteignable parce qu'il y a toujours des quotas de places,
oui,
etc.
Oui, il faut bien dire que c'est 94% d'une salle de plus de 2000 places.
Exactement, 2200 places. Et quand on annonce un chiffre à 94%, ça veut dire qu'en fait, on a joué l'essentiel de la programmation à guichet fermé. Donc ça, c'est un chiffre de réussite. Sur la croissance, oui, alors elle est réelle. Hein. Entre les deux dernières saisons, on a eu une augmentation de 16% sur la billetterie. Mais si on la regarde regarde à un peu plus long terme post-Covid, puisque le Covid a évidemment percuté la fréquentation, on est à 45% d'augmentation sur la progression des 4 dernières années. Donc on a une dynamique qui est extrêmement positive.
Mais qui est quasiment unique en France, je crois. Hein. Pour ne pas dire unique, en province en tout cas.
En tout cas, on en est sacrément fiers. Et comme je dis souvent, une maison qui va bien, c'est des équipes qui vont bien, des financements qui sont solides et un public qui nous suit.
Nombreux et fidèles.
Exactement.
En dehors de la Lograin, l'Orchestre du Capitole se produit dans l'Orchestre National, ne l'oublions pas, du Capitole, se produit dans d'autres lieux. Il y a notamment des tournées annuelles à l'étranger, il y en a bientôt une au Japon, et puis il y a des concerts en région. Mmh. Comment c'est financé ça? Comment ça fonctionne?
Alors avant de parler de financement, on va te parler de pourquoi on fait ça. Enfin, je trouve que c'est important d'être présent à toutes les échelles. Alors forcément, on a cette salle de la Halle au Grain, donc on est très toulousain, mais un orchestre national avec son label qui s'appelle Orchestre National en Région, il a une mission qui est celle de son territoire métropolitain, notre territoire de référence, une mission régionale et une mission de rayonnement national et international. Donc nous, on s'efforce et on le fait. On est présent à toutes les échelles et j'insiste avec toujours la même exigence artistique. C'est-à-dire que, notamment quand on travaille en région, on va travailler dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à la musique symphonique. Bah, ça fait partie de notre travail. On va être présent dans des festivals au niveau national. On a récemment encore une date au Festival Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Mais si on va plus loin, on était à la Chaise-Dieu il y a quelques semaines. On est
Classique à Or, tous les ans.
Classique à Or. On est invité permanent de la Philharmonie de Paris, j'élargis les échelles. Le Festival d'Évian récemment, la Grange au Lac. Donc oui, c'est un orchestre qui rayonne sur l'ensemble de son territoire, qui vient porter l'image de Toulouse.
Et puis à l'étranger, donc, alors il y a une tournée au Japon bientôt.
Oui, on était en Allemagne cette année, une belle tournée, on a renoué, on a pris un peu de temps. Là. Après le Covid, ça a été compliqué pour tout le monde de repartir en tournée. Et puis il faut un super directeur musical pour partir en tournée, donc en l'occurrence, on est très invités. Et on concocte pour le mois de juin 2026 une tournée au Japon, une magnifique tournée de 6 dates au Japon, avec notamment le Century Hall à Tokyo.
Le financement de ces tournées, ça se passe comment? C'est dans le budget de l'orchestre ou c'est financé, par exemple, par du mécénat, mais du mécénat qui peut être aussi sur place?
Oui, alors il y a plein de modèles de financement différents dans la tournée. La tournée régionale est largement subventionnée par la région, c'est le principal même financeur. La tournée nationale, bien souvent, elle est financée tout simplement par les structures qui nous accueillent. Voilà. Et à l'échelle internationale, effectivement, les structures qui nous accueillent contribuent pour une majorité dans les équilibres financiers. On a du mécénat, c'est un des points les plus anciens de l'association AIDA qui soutient le rayonnement de l'orchestre, donc on a un fidèle soutien là-dessus. Et effectivement, bah, il peut y avoir des compléments, mais on essaye le moins possible d'avoir des compléments de financement public. Alors, en tout cas, on est en construction. Chaque tournée nécessite une construction du modèle économique.
Et puis, il y a aussi des actions qui ne sont peut-être pas assez connues du grand public. Et je pense par exemple à un projet comme Demos. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste et à qui il s'adresse?
Oui, Demos. Demos, c'est un projet qui s'adresse aux enfants issus des quartiers politiques de la ville, donc des enfants qui n'ont pas un accès immédiat par leur environnement familial à la musique. C'est le pari de faire travailler ces enfants, de les réunir. C'est une centaine d'enfants issus de différents quartiers et on les réunit par la pratique de la musique en orchestre. Donc c'est un orchestre Demos avec des violons, des altos, des violoncelles, des contrebasses, des flûtes, des clarinettes, quelques cuivres, quelques percussions, et qui pendant 3 ans vont suivre des ateliers 2 fois par semaine, donc les ateliers qui ont lieu dans les quartiers de façon séparée, et après qui vont se réunir régulièrement, alors à la Halle au Grain en général, pour ce qu'on appelle les tutis, avant d'avoir des concerts qui sont donnés soit en fin de saison et a fortiori à la fin du cycle de 3 ans. Là, on emmène même l'orchestre Demos à la Philharmonie de Paris, puisque ce projet Rendons à César ce qui est à César. C'est un projet qui a été initié par la Philharmonie de Paris il y a une dizaine d'années maintenant et qui a fait des petits en région.
Et qui a très bien marché sur notre territoire.
Vraiment. Exactement. On a terminé notre deuxième cohorte, c'est comme ça qu'on dit, notre deuxième cycle de 3 ans en fin de saison dernière. Là, on est en année de transition pour construire un nouveau projet. Mais on a notre projet Cap Demos qui permet de continuer à faire travailler ces enfants Demos, ces anciens enfants Demos, qui pour plus de la moitié d'entre eux continuent la musique après cette expérience de 3 années.
Est-ce qu'il y a aussi des actions vers ce qu'on appelle les publics empêchés?
Oui, la marque de fabrique de la Maison Capitole, c'est d'avoir certes de l'accueil de scolaires dans la programmation, etc. Mais c'est aussi d'avoir des grands projets structurants. On a parlé de Demos, mais on en a 2 à l'orchestre, un qui s'appelle Tous les matins d'orchestre et un autre qui s'appelle Résonance. Et là, on va travailler de manière différente le handicap. Alors le handicap de façon générale, qu'il soit moteur ou psychique sur le projet Tous les matins d'orchestre et les troubles psychiques sur le projet Résonance. Alors quel est l'intérêt? Il y a toujours effectivement cette logique d'aller connecter des publics qui n'ont pas immédiatement accès à la musique, cette expérience de la musique. Il y a aussi une logique de pratique, parce que on le sait, les médecins l'ont fait, les neurosciences l'ont démontré, l'immersion comme la pratique amène à la fois une réhabilitation psychosociale, c'est le jargon des psychiatres, mais aussi une meilleure considération pour soi-même, une meilleure qualité de vie. Donc on s'est engagé dans ces deux projets.
Un mot aussi sur la politique tarifaire, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il me semble très important quand même de préciser que, contrairement peut-être à l'image que peut avoir la musique classique, on peut assister à des magnifiques concerts comme ceux de l'Orchestre national du Capitole pour des tarifs qui sont relativement abordables.
Oui, absolument. Et depuis cette saison, à partir de 8 euros et sans être dans une situation avec un tarif réduit, c'est vraiment le tarif d'entrée. On a voulu une grille qui soit accessible à tous. Donc 8 euros. Puis on a une politique très volontariste pour les jeunes qui nous permet de proposer 4 concerts pour 20 euros. Pour les jeunes, 5 euros en dernière minute. Et puis une palette de tarifs qui évidemment va plus loin pour les places de première catégorie. Mais ce qui est important, c'est effectivement que le prix ne soit pas un frein à la fréquentation.
On va finir avec un petit mot sur la saison 25-26. Alors, j'allais vous demander quels sont les temps forts, mais évidemment, vous allez dire qu'il n'y a que des temps forts. Et c'est vrai, vous ouvrez le 27 septembre, premier concert de la saison, avec Tarmo Peltokoski à la baguette et Bertrand Chamaillou, donc pianiste toulousain, bien connu, qui est d'ailleurs le directeur artistique du Festival Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Et ça va être avec la Tourangalila Symphonie d'Olivier Messiaen, une œuvre immense.
Oui, c'est un monument. C'était le rêve de Tarmo d'ouvrir son mandat de directeur musical, puisqu'il était directeur musical désigné l'année dernière. Il devient officiellement directeur musical chez nous. Donc évidemment que c'est un événement, et évidemment que toute la saison est constituée d'événements. Il y en a toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Il y en a pour tous les publics. Il y a des stars internationales qui viennent à Toulouse.
Yuhua Wang, cette année,
voilà,
c'est incroyable.
Wang,
la pianiste la plus demandée dans le monde.
Merci Tarmo de nous attirer ces talents. On a Mao Fujita aussi dans les grands noms. Il y en a vraiment pour tous les goûts sur les stars internationales. Il y en a pour tous les goûts en programmation. Vous avez des ciné-concerts, des happy hours qui vont être sur des temps forts instruments.
Les samedis à 18h.
Voilà, 18h. Alors cette année, autour de la clarinette ou autour des cuivres.
Les concerts jeunes publics le dimanche matin.
Les concerts jeunes publics le dimanche. Ce qui est important, c'est qu'on ait une programmation exigeante et éclectique.
Nous allons terminer là-dessus ce premier volet consacré à l'établissement public du Capitole, mais surtout à l'Orchestre national du Capitole. Merci beaucoup Claire Rosereau de Melun. On se retrouve la semaine prochaine pour un second volet consacré cette fois-ci à l'Opéra national du Capitole. Et vous allez voir que ses origines vont nous ramener près de 3 siècles en arrière. En attendant, je signale que toute la programmation de la saison 25-26 de l'Orchestre national du Capitole est disponible sur le site www.onct.toulouse.fr, où vous trouverez aussi la billetterie en ligne. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri à la technique Coraline Camebrac. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.